Time Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nelman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue sur Beurre FM avec un nouveau numéro de Time Sport en ce début de soirée. Oui, votre quotidienne sportive 20h, 21h tous les soirs et ce soir comme d'hab durant une heure le standard est ouvert pour réagir avec l'équipe de Time Sport en composant le numéro du standard. On le rappelle, le 01 53 48 3000 au menu de l'émission. Les retrouvailles entre les deux clubs, Nice et Marseille en Ligue 1 Uber Eats. Giroud encore décisif avec les Rossoneri, le Milan AC, l'international français revient bien donc. On accueillera pour la première fois sur notre antenne Sia militante contre les abus sexuels aux enfants dans le sport. Sans oublier Paris 2024, nous ne sommes plus qu'à 1000 jours des Jeux Olympiques en France. Place au JT Sport de Jason, c'est parti, Gogo Time Sport.
Time Time Sport.
Bonjour à tous, on démarre ce JT du mercredi par une info concernant Lucas Hernandez qui échappe à une peine de prison suite à sa demande d'appel reçue favorablement par le tribunal de Madrid pour une affaire, on le rappelle, de non-respect d'une mesure d'éloignement après violence conjugale. Le défenseur français du Bayern devra en revanche verser la somme de 96 000 euros à la justice espagnole. En Espagne, justement, une journaliste a été licenciée après avoir tenu des propos racistes hors antenne envers Eduardo Camavinga en août dernier lors de la présentation du joueur français, annonce le journal Marca. On continue en Liga avec le Barça qui perd encore Ansu Fati touché au genou lors du Classico pour une durée non précisée et qui rejoint Frankie de Jong, également absent ce soir face au Rayo. Et enfin, on termine avec du tennis en marge de l'Open d'Australie qui débute le 17 janvier prochain. Les autorités locales refuseront tous les joueurs non vaccinés, annonce le Premier ministre australien. Voilà, c'est tout pour ce soir. En vous souhaitant une bonne émission en compagnie de Bilal et toute l'équipe Time Sport.
Et voilà, on est là toujours en live jusqu'à 21h. Et ce soir, pour m'accompagner dans cette émission, on aura Fala, sans oublier Mickaël. Comment ça va, Mickaël ?
Bonsoir Bilal, bonsoir à tous. Bah écoute, la forme, hein. Content d'être là. J'ai fait mon retour la semaine prochaine, j'enchaîne, donc ouais. Je suis content.
Ah bah nous aussi, Mickaël, de t'avoir avec nous. Viknesh est de la partie ce soir. Comment ça va, Viknesh ?
Salut Bilal, salut Mickaël, salut tout le monde. Ça va très bien. On a un beau petit programme, une belle invitée. Très
ouais.
Bien.
Ah ben ça c'est sûr. Alors on va aborder le premier sujet de cette émission.
Time Sport. Le sujet des sociaux. Le sujet des sociaux.
Eh oui, justement, les Niçois face aux Marseillais interrompus à la 75e minute, on s'en souvient, 1-0 suite à des incidents. Avec ses supporters, le 22 août dernier, le match de la troisième journée de Ligue 1, donc opposant l'OGC Nice à l'Olympique de Marseille, sera intégralement rejoué ce soir du côté de Troyes. Une bonne chose, Mickaël. Loin du sud en tout cas.
Oui, loin du sud, donc sur terrain neutre. Comme tu l'as très bien dit, Nice menait au score lors du match de la troisième journée. Il menait 1-0. Il était quand même plutôt bien parti. Et suite à ces incidents, le match a été.
Arrête de rigoler quoi. C'est juste pour l'entrée de Fala que tu fais ça. On parle sérieux là.
C'est l'entrée de Fala qui est.
Il est perturbé.
C'est l'incident survenu dans le studio de Beurre FM là.
C'est du direct.
Allez.
Et donc voilà, donc ça va se rejouer ce soir avec pas mal d'enjeux parce que c'est deux bonnes équipes du championnat. Nice est actuellement troisième, Marseille est actuellement quatrième. En cas de victoire de l'une ou des deux, de Marseille ou de Nice, l'une des deux équipes prendra la deuxième place derrière le Paris Saint-Germain et devant Lens. Donc voilà, c'est pas anodin à la 11e journée de Ligue 1. Et comme je l'ai dit, c'est deux équipes qui jouent très bien au football, qui ouvrent le jeu et qui sont souvent renversantes. Donc on attend quand même un gros match ce soir.
Les Marseillais face aux Aiglons de Nice.
Après, l'avantage, c'est que comme Mickaël a dit, c'est deux bonnes équipes qui jouent bien au foot avec des bonnes individualités. Même si ça tourne un peu moins bien pour Marseille, il faut le noter, hein, parce que sur les six derniers matchs, il y a juste une seule victoire. Et le match nul contre Paris, c'est peut-être un bon résultat, faut voir. Mais après, au niveau du contenu, je suis pas sûr que ce soit satisfaisant parce que les Marseillais n'ont pas produit énormément de jeux, ils ont été solides. À 10 contre 11 contre le PSG, ils n'ont pas su faire la différence. Donc ça, c'est un peu regrettable pour eux quand même, il faut le dire. Mais après, côté niçois, moi, je trouve qu'ils ont fait un très bon début de saison, même s'il y a eu des petites galères au début.
Ouais.
Et là, les 2-3 derniers matchs, je les sens un peu plus en difficulté. Même s'ils s'imposent, ils sont revenus, ils ont été renversants contre Lyon, dans les 10 dernières minutes. Mais je les trouve un peu moins bien, le duo Delors-Dolberg. Je le trouve pas fort, très, très intéressant. Guiri, il devrait plus jouer dans l'axe, par exemple. Ça, je trouve que c'est un point faible côté niçois. Mais sinon, oui, ça va être un bon match. Et moi, je pense qu'ils vont faire tourner les deux entraîneurs parce que c'est un match en semaine. Donc forcément, ils vont faire tourner. Et là, on verra qui a le meilleur banc entre Marseille et Nice parce que Marseille, dernièrement, a des individualités qui ne brillaient plus trop. Payet, on ne le voyait plus trop. Quand Payet brille, bah, ça sentit côté de Marseille. Le jeu, ouais, il est fort, il est bien. Et quand Payet, bah, il est plus haut niveau, on voit que, bah, Marseille ne fait pas la différence offensivement. Parce qu'il y a Guendouzi, Camara, Saliba qui tiennent la baraque. Mais le reste, ça reste à voir, je pense. Pour moi, je pense qu'on s'est un peu trop emballé sur Marseille. Il faut voir dans la durée.
Oui, il faut voir dans la durée. Ah bah, dès ce soir, déjà. On va voir avec Fala aussi comment ça va. Ça Fala, va. Qui nous a rejoint.
Ouais,
et toujours pimpant, Fala. Bel homme, Fala. Eh oui, eh oui, Fala, quelle habitude, justement, qui connaît bien les terrains de football. Fala, cette, bah, ce match en décalé, quoi, en retard. Nice-Marseille, eh oui, Marseille peut-être comme le disait Viknesh, eh bien, ou encore Michael, va falloir voir dans la durée ces Marseillais de Sampaoli.
Ouais, déjà il y a ça, déjà en tout cas on sait que déjà ce match-là va laisser des traces par rapport déjà aux incidents qu'il y avait eu déjà. Pour commencer,
ouais,
je me rappelle un peu du match, je crois que c'était Nice qui menait, je crois. Si je
c'est ça.
Donc là, on recommence sur un nouveau match. Donc si Nice s'avère, il perd ce match-là, il risquerait d'avoir des regrets un peu par rapport à la première physionomie du match qu'il y a eu avec les incidents. Maintenant, Marseille, je le répète, je l'ai dit, moi, j'ai juste à partir de janvier, je me laisse le droit de réserve pour l'instant. C'est une équipe qui a beaucoup recruté.
On laisse le temps au Marseille, ouais, c'est ça. On peut pas.
On s'est emballé un peu.
Le problème, c'est qu'on laisse pas, je pense qu'on laisse pas assez le temps à. Faut pas oublier, il y a eu un mercato plus ou moins cohérent à Marseille avec pas mal de joueurs qui sont arrivés. Faut que ça se mette en place. On voit bien que ça. Il y a une idée de Sampaoli, on le voit bien maintenant. C'est clair, on voit où il veut aller maintenant. Moi, comme j'ai dit, je le juge pas maintenant. J'attendrai janvier, comme j'avais dit. Et Nice, moi, pour moi, Nice, justement, je les trouve un peu au-dessus de là où je les avais placés parce que je pense que la tâche a été plus dure à Galtier de remettre cette équipe-là de Nice que pour Sampaoli qui travaille déjà depuis un an et demi avec Marseille, qui a déjà des bases et tout. Et pourtant, Galtier, moi, je suis pas surpris, mais je suis content qu'il a réussi en peu de temps à inculquer sa philosophie à Nice. Donc ça va être un très très bon match.
Assez
mais je pense que ça va laisser
assez des... disputé.
Ouais.
Galtier Sampaoli, un gros combat, c'est ça.
Ça va être un beau combat au niveau des coachs.
Ouais. Alors Mickaël, d'accord avec ça.
Au niveau des coachs, c'est des équipes aussi qui sont un peu qui ont beaucoup changé leur effectif durant le mercato, tu l'as dit. Moi j'aime beaucoup le parcours de Christophe Galtier. Je suis Nice depuis le début de la saison.
Ouais.
Pourtant j'étais pas du tout fan de Galtier dans ses années à Saint-Etienne. Certes, il a sorti Saint-Etienne un peu du marasme, le marasme dans lequel ils sont retombés, voilà exactement, ils sont retombés dans le marasme
sous
Puel. Dans les marécages, ouais, exactement.
En Ligue 2.
Je trouve que c'est un coach qui a su se remettre en question et qui a su se renouveler du côté de Lille. Et je trouve que le choix d'aller à Nice, ça a été un très bon choix pour lui parce que c'est un nouveau challenge avec des moyens, avec de super joueurs, avec aussi des joueurs jeunes. Et je trouve qu'il arrive à donner aussi vraiment ce qu'il avait réussi à faire du côté de Lille aussi, c'est-à-dire arriver vraiment à inculquer un vrai mental. Quand on voit le dernier match contre l'Olympique Lyonnais, qui sont quand même au fond du trou toute la première mi-temps, ils arrivent pas à enchaîner trois passes et tu vois qu'à la fin sur une étincelle ils arrivent à renverser la situation, ils perdaient 2-0 et ils gagnent 3-2 et c'est vraiment une équipe sur laquelle il va falloir compter cette année avec vraiment de super joueurs. Si on doit faire le parallèle du côté de Marseille, c'est le meneur de jeu, c'est Dimitri Payet qui a 34 ans aujourd'hui et vraiment je pense arriver à maturité et je pense qu'il peut prétendre clairement à
une place
en équipe de France.
Mais non, l'équipe de France, c'est pas d'accord. Allez, c'est bien, je
pas là. Je pense que oui, je pense qu'il peut aujourd'hui prétendre à ça. Et de l'autre côté, le meneur du côté de Nice, ça reste Amine Gouiri, comme
Yacine en parlait.
Il a été mis sur le côté, donc mais c'est vraiment lui qui marque, c'est lui qui fait les passes décisives. C'est vraiment par lui que la lumière s'allume.
Ouais.
Donc voilà, je le redis encore une fois, ce soir avec aussi deux bons coachs qui vont être tournés vers l'offensive. On attend un très gros match. C'est dommage que ça soit sur terrain neutre en tout cas.
Oui, voilà. Alors on écoute, on va revenir avec Neige.
Oui, voilà. Sur Dimitri Payet.
Dimitri Payet, le Marseillais.
Je vais faire court parce que c'est un débat sans fin sur Payet. Mais de là à ce qu'il retrouve une place en équipe de France, déjà ça c'est mort. Parce que déjà on voit bien le cas Giroud. Déjà c'est compliqué pour lui déjà d'essayer de récupérer sa place en équipe de France. Alors je parle même pas de Payet.
Ouais.
Je crois qu'il est même plus dans les plans de Didier Deschamps.
Ah carrément. Il est plus.
Par contre, là où je vais me poser une réserve, c'est
est-ce que tu as beaucoup de réserves aujourd'hui.
C'est ça. Vas-y.
Mais
et toi, tu joues en réserve aussi.
Sampoli, il ferait pas mieux de le laisser un peu à la, au repos, parce qu'il faut dire, il a joué quasiment tous les matchs. À part, il a eu deux, trois petites blessures. Il était absent deux, trois matchs. Mais il enchaîne beaucoup ces derniers temps, Dimitri Payet. On l'a vu contre le PSG, c'était très compliqué pour lui. Ça a été très, très compliqué.
Mais dans les grands matchs, il est jamais là, Payet. Ça fait des années, c'est pareil.
Ouais.
On va pas découvrir Payet, on connaît Payet.
Après, il y a l'enchaînement des matchs. Peut-être que là, il est dans sa période où il arrive à. Faut le faire souffler un petit peu. Tu sais, tu le fais souffler soir, tu le fais jouer de ce week-end. Ce week-end, il revient avec des jambes. Tu vois, parce que je trouve que là, avec le match, déjà, c'était très compliqué. Dimanche, vous l'avez tous vu, c'était compliqué pour lui. C'est-à-dire, il y a eu un semblant de fatigue un petit peu, tu vois. Donc, non, je vais mettre ma réserve sur lui. Alors après, lui, ce qui est agaçant, c'est qu'il est capable de te... On va le critiquer, mais il est capable de te faire un match. Tu vois,
même de faire un mauvais match et de
une
faire
une action,
le geste qu'il faut ou donner peut-être la victoire au bon moment.
C'est pour ça que j'ai quand même du mal à croire que Sampaoli, il se passera de Payet, même si t'as pas totalement tort, dans le sens où il a peut-être un petit peu besoin de souffler un peu.
Ouais.
Mais ça reste quand même un match ce soir, je pense, un match qui reste important, parce que c'est deux équipes qui vont tenter d'accrocher la Ligue des Champions. Et bon, certes, on est qu'à la 11e journée, donc on est un peu plus du quart du championnat. Mais ça reste quand même un match qui va compter. Et,
bien sûr, il comptera pour Marseille.
Logiquement,
Nice, 19 points. Devant Marseille, 3e, Mickaël Fala avec Neche, et Marseille, 4e, 18 points. Celui qui gagne, c'est pas mal pour celui qui l'emporte.
Bah oui, ça reste un match.
Et Lens, 2e, second du Paris Saint-Germain, 21 points. Oui, avec Neche.
Bah, Marseille, en fait, pour eux, c'est bénéfique, je trouve, le match. Parce que normalement, ils devaient perdre le match. Ils perdaient le match. Donc pour eux, ils peuvent.
On sait jamais ce qui peut se passer.
Mais il restait un quart d'heure. Mais franchement, il restait un quart d'heure, on les voyait pas trop. Bah, donc je pense que pour eux, ils ont tout à gagner. Parce que mine de rien, au final, ils partent de 0 points, ils peuvent avoir 3 points comme par magie. Bon, on va dire qu'il y a des incidents, il y a des problèmes, etc. Mais sur le côté sportif, ils peuvent gagner 3 points. Bon, ils peuvent en perdre un aussi, peut-être avec le sursis qui peut tomber, on ne sait jamais à tout moment. Mais ils peuvent gagner des points. Donc pour eux, ils n'ont rien à perdre. Et je pense que si Sampaoli, il fait tourner un peu l'effectif, parce qu'il y a des joueurs, on voit qu'ils sont en bout de course, ils n'ont plus de force physiquement, même peut-être mentalement, ils sont peut-être épuisés, parce que Sampaoli, il demande énormément sur le terrain, il demande beaucoup d'efforts.
Si tu es épuisé mentalement à la 11e journée,
c'est ça.
Je veux bien physiquement.
Enfin là, c'est dur.
Mais mentalement,
Il a raison, Michael.
Ça me rappelle un peu Bielsa, c'est son mentor. Ça va pas être intéressant
pour les Marseillais alors. Enfin là.
Maintenant.
On est au mois de novembre.
C'est ça.
S'ils sont cramés. Il parle de joueurs cramés.
C'est pour ça que je tourne.
Moi, c'est ça qui me pose problème un peu. Si on est à la 11e journée, on est au mois de novembre. Les joueurs sont déjà cramés avec ce qu'il a mis en place. Je vous dis, moi j'attends.
Après, on sait que les footballeurs français ont. Enfin, c'est un truc un peu répandu.
Plus difficile
en mode
travailler.
À chaque fois qu'ils partent à l'étranger, ils disent qu'ils travaillent plus, etc. Donc, peut-être que la charge de travail, est certainement plus importante chez un Sampaoli que chez un Genesio. Hein, et j'ai un contre Pep Genesio. Mais c'est inquiétant si tu te dis qu'ils sont cramés ou psychologiquement ou physiquement à la 11e journée. Pour récupérer un second souffle derrière,
Moi je dis ça à partir du. Enfin, à cause ou grâce à Sampaoli qui demande énormément d'efforts, ces joueurs. On le voit, ils jouent en 3-3-1-1 parfois, enfin ça dépend comment ils jouent. Et chaque fois, les joueurs ils sont multitâches sur le terrain, ils sont partout. Donc il faut courir énormément, tu dépenses énormément d'énergie sur le terrain. On les voit, il y a des périodes pendant les matchs, ils sont pas là, ils sont absents. À la fin des matchs, on les voit, Marseille ils sont pas forcément en forme.
Ils courent dans le vide.
Mais j'ai pas dit ça.
Ils utilisent beaucoup d'énergie.
C'est ça.
Après, c'est peut-être le pressing qui demande de Sampaoli, les efforts qu'il leur demande de faire. Ça leur demande beaucoup d'intensité. Et je sais que en préparation physique, je pense qu'il a dû accentuer.
Oui, ils ont bien travaillé sur ça.
Sur le physique, et surtout, je pense sur le mental, parce que si ça décroche, s'il y en a un, je te dis, si genre admettons Payet, il décroche.
Lui, c'est un leader surtout.
Tout, ça va lâcher derrière. Il y en a, ils vont voir à lui s'il décroche déjà un peu physiquement ou il se relâche un peu. On va se relâcher, puis ça peut aller très vite.
Bien
ça
sûr. Avec Neche, l'Olympique de Marseille, donc c'est un peu les montagnes russes, on l'aura compris ce soir.
Pas beaucoup.
Pour une fois, je ne vais même pas être trop critique sur eux.
Oui.
Mais je trouve que c'est très cohérent ce qu'ils font depuis le début de saison.
Oui, mais ça, je n'ai pas dit le contraire.
C'est sympa quand même. Sampaoli, il ne faut pas le négliger, Fala.
Non, mais justement, c'est ça que je dis.
Et en plus, si on parlait chaque semaine,
C'est ça que je dis. Moi, je trouve que après, on va voir. Parce que Sampaoli, je vous dis, c'est quelqu'un de caractériel. Il y a des joueurs dedans dans cette équipe.
Alors, statistique, c'est plutôt février, mars, à chaque fois. Le retour de la Ligue des Champions, le sprint final.
Exactement, parce qu'on va voir les grosses équipes avant de commencer à lever leur niveau. Le PSG, on sait tous qu'à partir de janvier, février,
ils
vont lever le niveau automatique et ça ne sera pas la même machine. Lyon, pareil. Pourtant, Lyon, j'ai dit.
Ouais, mais Lyon, quand même.
Lille, ils sont déjà pas mal.
Ah ouais, ce Lille, ça va monter progressivement. Monaco, pas. Et je vous dis, au mois de janvier, on va retrouver les 5-6.
On l'aura compris. Voilà. Plus tu descends dans le sud, et plus ça va mal pour Vic Neige. Peut-être plus tu remontes vers Lyon, ça va bien. Tout comme toi, Bébé. Mickaël, c'est vrai, Mickaël. Alors, Mickaël, avant la pause, allez, vas-y. Une réaction concernant ces deux clubs. Oui.
On attend des buts, tout simplement.
Il n'y aura pas beaucoup de buts, moi, je l'annonce. Il n'y aura pas beaucoup de buts.
Alors, bon, on verra. On verra les pronostics en cette fin d'émission. Vous restez avec nous, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM. On revient rapidement avec notre invité ce soir, Siem, qui nous fait le plaisir, excusez-moi, le privilège de nous accompagner sur l'antenne de Beurre FM. À de suite.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM. Et voilà, après cette première pause, toujours en compagnie de Fala, notre consultant Vic Neige est de la partie ce soir avec son acolyte Mickaël. Une petite pensée à La Réunion, en la personne de Juba. Oui, qui nous écoute.
Juba,
Mais ben voilà, il a la chance.
Il est sur certains dossiers actuellement.
Il est toujours là, Juba, qui nous écoute. N'oubliez pas le numéro du standard, le 01 53 48 3000. Et c'est parti avec l'invité de ce soir.
Time Sport. The special one.
Eh oui, c'est une dame qui est avec nous ce soir. Siem, militant contre les agressions sexuelles aux enfants dans le sport, mais pas que. Bonsoir Siem.
Bonsoir.
Comment ça va? Justement, ça fait vraiment plaisir de vous avoir avec nous, parce que ce sujet reste tout de même un tabou, que ça soit en France et même dans d'autres pays. Mais voilà, aujourd'hui on a décidé de revenir sur cela, contre ces agressions sexuelles. Tout de même, la Fédération Française de Football a été condamnée dans une affaire d'harcèlement sexuel. On se souvient, il y a quelques jours, on en a parlé de Pat Evra, l'ancien capitaine controversé, qui avait aussi subi ces agressions, des agressions sexuelles durant son adolescence. Aujourd'hui, comment on va dire ça se passe malheureusement? Est-ce que voilà, on va tirer cette sonnette d'alarme, on va donner la parole plus facilement à ses enfants mais aussi à ses parents?
Oui,
si vous pouvez nous en dire un peu plus, Siem.
Alors déjà,
que ce soit dans le sport mais pas que.
Bah déjà merci de nous donner la parole quand on milite sur ce genre de situation, pour c'est ce genre de fléau, sur ce genre de fléau. C'est vrai que c'est une parole qui est difficilement entendable. Donc c'est plutôt je dirais l'écoute qui aujourd'hui est beaucoup plus présente que la parole libérée. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les gens libèrent la parole, mais c'est surtout que les gens sont plus prêts à entendre ce qui se passe aujourd'hui. Donc merci en tout cas à Beurre FM, et merci à toi Bilal de m'avoir permis d'aborder ce sujet. Donc en fait ce que je voudrais dire aussi, c'est que c'est Patrick Evra quand même qui est un symbole dans le football.
Pour nombre de jeunes aussi sur la planète football, sport quoi.
International, avec sa carrière et sa notoriété internationale. Et ce qu'il a dit a été traduit dans toutes les langues. On a pu retrouver les articles et son livre d'ailleurs qui sort demain.
C'est vrai.
I Love This Game.
En anglais, c'est tout?
En anglais seulement.
Et en français alors?
Ça sera le 22 janvier normalement.
Ouais.
Donc on aura un petit peu, pour les curieux qui veulent lire en anglais, ce sera possible. Mais sinon, c'est vrai que c'est. Il faudra attendre. Donc, par contre, ce que j'ai pu voir de ce qu'il a dit, en fait, c'est que malheureusement, Patrice Evra, c'est finalement une victime qui a dû faire face aux mêmes mécanismes mis en place, qui sont les mécanismes du silence. Et c'est malheureusement le cas de la majorité de toutes les victimes, en fait, les enfants violés ou agressés, qui culpabilisent. Donc voilà, c'est comment Patrice Evra est resté sans rien dire jusqu'à ses 40 ans.
C'est quand même. C'est assez. Alors, voilà. Et la première réaction, c'est assez fou quand même, ce silence.
Mais c'est ça, en fait.
Oui, sortir du silence.
En plus, on sait que Patrice Evra, au niveau caractériel, tout, il mâche pas ses mots.
N'importe quoi. Il est un vrai guerrier, quoi.
Tu le dis direct. Donc
Capitaine de France.
Oui, c'est vrai.
Voilà. De l'équipe de France.
De Manchester United. C'est un. En Angleterre, c'est une.
C'est une vraie légende.
C'est
un. On est d'accord avec Siem,
Mais c'est surtout le fait que. Moi, ce qui est ça, c'est.
Alors.
C'est ça que j'ai pas compris, c'est. Comment ce mec-là, avec toute la carrière qu'il a eu, le charisme qu'il a, il n'a pas parlé avant. Et c'est ça que, tu vois, ça touche encore plus au niveau de la personne, en fait.
Oui, c'est vrai.
On voit un autre côté de la personne.
Oui.
On voit que c'est un mal-être profond.
Oui.
Tout à fait. Et en fait, c'est vraiment un mécanisme qui est en place, puisqu'en fait, il y a différentes couches de silence. Moi, je dirais qu'il y en a cinq. C'est que d'abord, l'enfant. Quand il est victime, c'est un enfant, ça reste un enfant. Donc c'est vraiment l'être humain le plus vulnérable après, enfin avant les femmes, on parle des victimes femmes, mais un enfant c'est encore plus vulnérable que sans adulte, il ne vit pas, il ne survit pas. Donc en tant qu'enfant, quand il doit faire face à cette violence, il doit déjà se défendre contre le violeur. Donc Patrice Evra, il le dit, alors j'essayais de le repousser, de le frapper. Donc il a essayé de se défendre et malheureusement il a la culpabilité de ne pas avoir réussi à avoir échappé à cet agresseur. Donc du coup il y a cinq défenses que l'enfant doit à laquelle, enfin, il doit se battre contre le violeur. Et souvent là, Patrice Evra a eu quelque part dans son malheur la chance, ouais, d'avoir un agresseur extérieur à sa famille. Mais il faut savoir que 8 à 9 fois sur 10 l'agresseur est dans la famille,
ouais.
Donc l'enfant est confronté à son violeur, ouais, tous les jours. Quand c'est, ouais, et ça c'est chez, voilà. Et sachez, ouais, que 4 fois sur 10 c'est le père lui-même. Donc 4 fois sur 10 c'est le papa de l'enfant, ouais. Donc tous les jours il voit son agresseur. Et c'est une agression quotidienne. Et pas seulement sexuelle, verbale, physique, et humiliation, etc. Donc se défendre contre son violeur, se défendre contre la culpabilité intérieure qui se construit de ne pas avoir réussi à s'échapper, se défendre également contre les réactions prédéterminées, c'est ce qu'explique Patrice Evra,
ouais,
en disant voilà comment allait réagir ma famille. Mon père, il le dit, pour mon père pleurer était un signe de faiblesse. Vous voyez, il explique, ouais, que ben quelque part la transmission, c'est un garçon, c'est difficile de parler, ça remet en question la virilité,
bien sûr,
la masculinité.
Ouais.
Et donc pour un garçon, dire qu'il a été violé, c'est très difficile. Ensuite, on a aussi qu'il parlait de sa mère en disant que sa mère était dévastée. Il lui a dit seulement il y a quelques semaines. C'est tout récent.
Ouais.
Voilà.
Il va avouer.
Il va avouer.
Ouais.
Comme il a pas parlé, il a rien.
Ah ouais.
Très choqué. C'est ce qu'il explique.
Il avait avoué à sa maman aussi. Oui.
Oui, récemment, ouais, au moment de l'écriture, il explique que c'était un choc. Donc quelque part l'enfant, quand il sait que sa mère va être dévastée, donc l'enfant veut protéger sa mère et souvent il ne parle pas à cause de ça. Ensuite il dit qu'à l'heure actuelle il n'en a pas encore parlé à ses frères et sœurs ou à ses amis proches. Donc on a vraiment les différentes couches de l'oignon. Donc on a l'agresseur, l'enfant lui-même dans sa culpabilité, la famille et les proches. Donc c'est à chaque fois des étapes difficiles à franchir. Ensuite on a aussi se défendre du mauvais jugement des gens, de nous, de, ouais, la société,
ouais,
parce qu'en réalité, oui, parce qu'en fait, c'est ce qu'il explique en disant. Il explique ici, par exemple, dans l'article, dans Le Monde,
ouais,
c'était un moment difficile pour moi. Et il dit, je n'ai pas raconté toute l'histoire parce que j'avais encore honte quand j'ai écrit le livre. J'avais peur de ce que les gens allaient penser. C'est-à-dire qu'encore à 40 ans, après avoir été champion,
ouais,
etc., la honte, la peur persiste. Donc, que vont dire de moi les gens? Donc, c'est encore une façon en fait de se retrouver enfermé dans un, oui, silence. Et ensuite, et parce que les gens jugent mal en fait.
Ouais.
Par rapport à l'image que tu peux, ouais, renvoyer, l'image qui pouvait renvoyer par rapport à ça. Et c'est quand,
ouais,
même,
dans
c'est
le monde du sport, terrible, bah, le football carrière aussi. Ouais.
Ouais. Mais donc, je veux dire, dans la société en général, et,
ouais,
c'est quand même terrible qu'un enfant doive subir tout ça.
Tout à fait.
Seul, ça, ouais, c'est exactement.
Pour un enfant, c'est quoi quand
alors, Fala,
il y a des enfants, ils le disent.
Ouais.
Ils vont le dire à leurs parents, mais souvent, là, je pense qu'il y a aussi ce problème-là. Les parents n'écoutent pas ou ils ne croient pas en.
Tout à fait.
Ouais.
Oui. Moi,
personnellement, je sais que j'ai des enfants. Je sais que, ouais, bien, moi, mon enfant, je le vois, je le verrai tout de suite. Il me dit, j'aurais pas le temps de lui dire, ouais, non, tu racontes n'importe quoi, ou je sais que c'est. J'aurais juste à le regarder pour voir que c'est réel ce qu'il me raconte. Et ça, c'est.
Bien sûr.
Et,
non. En fait, c'est difficile à croire parfois pour un parent. Alors, parce que quand il s'agit par exemple d'un proche dont tu as totalement confiance, ton mari par exemple, ou ton frère, ou ton père,
ouais,
et que ton enfant te dit, ben voilà ce qui m'est arrivé, c'est compliqué parfois pour la mère. Et 9 fois sur 10, en fait, la mère, elle garde le silence, elle ouais, étouffe l'affaire.
Ouais.
9 fois sur 10, elle est, soit elle préfère se taire parce que ça remet en question toute une vie.
Il y a aussi une dimension de
alors, Michael, avec Neige.
Il y a du déni là-dedans aussi.
Tout à fait. Ouais. C'est un déni vraiment. Parce qu'en plus, psychologiquement, c'est très dur de c'est un choc tellement fort. C'est un tsunami, quoi, dans la tête, de se dire, mon enfant a subi ça. Donc c'est dévastateur, vraiment. Ça détruit.
Et puis il y a la double lame de se dire, mon enfant a subi ça. Et en plus, c'est par telle ou telle personne.
Pas quelqu'un de la famille, c'est encore plus
dur. Ouais. Après, c'est les parents, dans quelle position ils vont se mettre après quand ils vont s'apercevoir qu'en fait.
Il n'y a pas de position.
Il y a une culpabilité, ouais, aussi, voilà, du parent. De dire, j'ai pas protégé mon enfant.
Ouais, c'est
parce que souvent, la plupart du temps, quand on accuse c'est qu'un membre de la famille, on veut pas y croire.
Oui.
Donc souvent on remet la faute sur l'enfant, il dit n'importe quoi.
Tout à fait.
Il dit ça. Donc je pense qu'en fait il devrait avoir un travail aussi de prévention au niveau des parents, je pense.
Faut, justement, la
le
prévention.
Mal, il est partout,
on en parlait,
il se cache nulle part, en fait il est partout.
Viknesh, peut-être une réaction avec CM, notre invité ce soir.
Je me posais une question. Est-ce que ça fait avancer, et j'espère que ça fait avancer, des personnalités comme Evra qui mettent des choses en avant, qui fait libérer la parole.
Ah oui.
Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est positif, est-ce que ça fait vraiment avancer?
Ouais. Tout à fait.
Là, on en parle. Mais est-ce que par la suite, il y a des conséquences, il y a des répercussions?
Alors, les répercussions sont énormes parce qu'en fait, le football, c'est un sport de la culture masculine déjà. Alors, on en a parlé, hein, Sarah Abitbol en a parlé dans le patinage artistique.
C'est vrai.
On a eu Sébastien Boulet qui a dénoncé dans le Colosse au pied d'argile, notamment actuellement, il y a un tournage en cours avec Eric Cantona du foot qui joue le rôle de Sébastien Boulet. Donc, dans le rugby, ça a été aussi dénoncé.
Mais dans, c'est vrai que dans le patinage, il y en a beaucoup.
Dans les gymnastiques, on en a vu dans la natation. On en a vu dans plein de sports, mais le football, c'est quand même la culture masculine, c'est le sport de mec.
Ouais.
Et parler de ça, c'est ce que dit Patrice Evra, il parle de masculinité toxique, c'est-à-dire que comment on peut assumer ça en tant que garçon.
Il a pas tort.
Et oui, et d'ailleurs, et dans les statistiques,
c'est vrai.
Ils expliquent qu'il y a par exemple, je crois, 12 filles pour 3 garçons victimes de viol en tant qu'enfant. Et moi, je pense que ces statistiques sont sous-estimées chez les garçons parce que justement, les garçons, même adultes, gardent le secret. Oui. Enfin,
ils vivent la parole qui se libère, en fait.
Tout à fait. Ouais. Donc Patrice, merci d'avoir dit merci.
Bien sûr.
Parce que oui, ça va aider plein d'enfants à dire.
Il a été fait comme un peu un ambassadeur, quoi.
Tout à fait. Même, c'est un modèle. C'est un modèle. Alors il parle de lâcheté. Modèle. Oui, c'est un modèle. Ouais. Mais il parle de lâcheté. Il dit le fait de ne pas en parler m'a fait me sentir comme un lâche pendant de longues années.
Ouais.
Il parle de lâcheté. Moi, j'ai envie de dire à Patrice non, t'as pas été lâche. T'as défendu ton avenir. T'as défendu le droit d'avoir une vie normale, une vie de famille, une carrière professionnelle. Parce qu'on peut se poser la question en se disant est-ce que si Patrice Evra avait dénoncé les faits plus jeune, est-ce qu'il aurait eu la même carrière? Est-ce qu'il aurait été nommé capitaine de l'équipe de France?
Justement, j'ai une question. Tu
sais même pas si avec ça.
Moi, j'ai une question à ce propos-là.
Une question de Viknesh. Avant de terminer avec notre invité.
C'est pour cette raison-là que, par la suite, il a eu qui a été considéré comme quelqu'un de gros caractère, comme une grande gueule. Est-ce que c'est une carapace qui s'est forgée, en fait, avec le temps? C'est à cause de ça?
Je pense que c'est titanesque, le fait de vivre avec un secret aussi lourd, avec cette souffrance, sans le dire à sa mère, sans le dire à ses proches. Enfin, c'est clair qu'à l'intérieur, il doit y avoir, c'est très douloureux pour les enfants qui sont victimes, en effet. Donc, c'est certainement,
intéressante l'invité ce soir.
Je pense qu'en fait, au vu de maintenant de ces déclarations qu'il a faites il n'y a pas longtemps sur ça, je pense que maintenant on s'aperçoit qu'en fait le mec, maintenant on comprend le personnage,
pourquoi
il était un peu dur. À mon avis, s'il se lâche à 40 piges, c'est que le mec, pendant jusqu'à là, de ses 7 ans qu'il a commencé le foot, je sais pas si c'était à quel moment il a eu ça, je pense que ça doit être à Clairefontaine.
13 ans, 14 ans,
Ça doit être encore une histoire de Clairefontaine.
Oh, tu vas plus Clairefontaine directement. Oh, quand même.
En fait, ça a été le professeur ou le directeur de l'établissement où il était, qui avait proposé à ses parents très gentiment de loger leur enfant, 3 jours par semaine. Et donc, il a profité de son statut et son autorité pour abuser, et on dit pas abuser, pour agresser.
Ouais, agresser
sexuellement et violer un enfant.
Ouais.
Et donc, la parole de Patrice Evra est importante parce que c'est aussi un modèle pour les enfants, parce que tous les enfants du monde rêvent d'être footballeurs.
Bien sûr.
Donc, avoir ce champion international qui parle, ça va aider plein d'enfants à parler, parce que le football, ça fait rêver tous les enfants, et c'est important. Et en plus de ça, ça donne un modèle pour les familles, parce que la famille, la mère est dévastée, la famille, c'est des victimes collatérales, et donc ces victimes veulent des modèles d'enfants qui ont, malgré leur souffrance, fini par avoir une résilience et aller au bout du tunnel, il y a la lumière malgré tout. Et c'est important d'avoir ce genre de modèle pour justement se dire qu'on peut s'en sortir.
Très intéressant, CM, militante, on le rappelle, contre les agressions sexuelles faites dans le sport, mais aussi
tout à fait.
Sur les enfants. Malheureusement, on poursuit.
Justement, alors je voulais juste, dans l'esprit d'équipe.
Bien sûr.
On a quand même c'est un joueur de foot.
Ouais.
Donc, moi j'ai envie de dire, où sont sur les coéquipiers. voilà, comment ils ont réagi? Est-ce que Zinedine Zidane, est-ce que Griezmann, est-ce que Mbappé?
Ah ben, on a des scruteurs là, des réagi. Ah ben, peut-être Mickaël. Ouais, il y en a pas beaucoup que je crois que.
Est-ce qu'il y a eu du soutien?
Peut-être à la sortie du livre, on va attendre demain ou dans les jours à venir.
J'espère en tout cas.
SIM alors demande de réagir.
J'espère qu'ils vont réagir et en tout cas s'ils ont envie de se renseigner sur les violences, s'ils ont envie de se renseigner, s'ils ont envie d'avoir des infos, peu importe, même vous qui écoutez, je vous invite à aller sur incesticide.fr. C'est un site que j'ai créé qui donne quelques clés, quelques documentaires, quelques podcasts, quelques livres pour apporter des réponses. Et c'est pas encore à jour, donc vous verrez au fur et à mesure des nouveautés. Mais c'est très important de donner des clés et faire de la prévention et en parler, parce que le seul moyen de lutter, c'est d'en parler.
C'est d'en parler. On rappelle le nom du site internet, CIEM.
Alors, incesticide.fr. C'est pas insecticide, c'est incesticide.
C'est pas la même chose. Voilà. Ouais, mais il faut le rappeler pour les auditrices et les auditeurs de Bord FM.
Et il y a un documentaire à voir absolument. Alors, c'est 1 sur 5, parce que c'est un chiffre énorme.
Ouais.
C'est un chiffre officiel. Il y a un enfant sur 5 en Europe qui est victime de violences sexuelles. Karl Zéro a fait un documentaire gratuit sur YouTube qui s'appelle 1 sur 5. Vous pouvez regarder, c'est une heure et demie et ça donne beaucoup d'informations sur la manière dont ce fléau est traité en France. Ouais. Voilà.
Un grand merci. C'est merci des auditrices et des auditeurs qui le disent. C'est Nassera qui nous dit bien Madame CIEM. Voilà.
Merci.
Et on a aussi Yacine, chapeau bas pour CIEM.
Merci.
Voilà. En tout cas, un grand merci CIEM de
merci
nous avoir. D'avoir été avec nous sur cette antenne de Beurre FM. On va la laisser filer, c'est parce qu'elle a pas mal de boulot. Incesticide.fr, c'est bien ça.
C'est ça.
C'est ça, voilà, le site internet. Et nous, on va marquer d'une courte pause avant de revenir avec Giroud et le Milan AC pour le plus grand plaisir de Mickaël et Fala. Et sans oublier les JO de Paris 2024.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Retour sur l'antenne de Beurre FM pour la dernière partie de cette émission qui est Time Sport, tous les soirs, 20h-21h, accompagné, on a laissé filer notre invité CIEM, accompagné de Fala, de Viknesh, sans oublier Mickaël, on prend le chemin de l'Italie.
Time Sport, la troisième mi-temps.
Giroud du jamais vu, Mickaël, depuis un certain Mario Balotelli.
Ah ben Giroud toujours aussi surprenant, qui jouait le rôle de second couteau, voire de troisième couteau du côté de Chelsea l'année dernière.
Et là il est en place.
Qui arrivait quand même, bon, qui a quand même réussi à marquer son petit quadruplé en Ligue des Champions et qui arrive toujours à marquer certains buts assez incroyables. Et là, un peu contre toute attente, il s'est relancé un challenge. Du côté du Milan AC, ça fonctionne plutôt bien. Le Milan AC qui a quasiment carton plein en Serie A en 9 matchs, 8 victoires et un match nul contre la Juventus. Et hier, victoire 1-0 et but d'Olivier Giroud. Donc moi, je suis toujours, je dirais pas impressionné, mais vraiment grand respect pour ce que fait Olivier Giroud depuis le début de sa carrière. Et là encore.
Et on reviendra chez les Bleus. On veut le savoir, Mickaël. Bah oui, pourquoi pas.
Je pense que Deschamps a tourné la page Olivier Giroud.
Ah mais apparemment pas de paille.
Voilà.
Oui, pas de paille.
D'après ça.
Tu comprends plus rien là.
Ah ouais,
c'est ça.
Oh, bah rappelle
paille. Je suis pas forcément sûr et certain qu'il ait tourné la page Dimitri Payet.
Bah si.
Je suis pas sûr et certain de mon côté. Après, c'était surtout un ressenti personnel par rapport à Payet que je trouve vraiment très très bon sous Sampaoli. Et je pense qu'un profil comme ça, bon là on digresse, mais je pense qu'un profil comme Dimitri Payet en équipe de France, un peu meneur de jeu comme ça,
ça court pas les rues, c'est la question. Mais
Griezmann, tu sors pas, c'est ça le problème.
Mais après c'est pas forcément pour être titulaire, c'est juste pour amener un autre profil, un autre style de joueur dans l'effectif. Après, tu peux le mettre à la place d'un. Tu peux enlever un mec de couloir, tu peux enlever Anthony Martial pour mettre.
Ouais, vu comme ça, il n'a pas tort là.
Et Moussa Diaby, tu peux le sortir pour mettre Payet. Ouais,
il y a plein de joueurs sur une philosophie en général.
Oui, là-dessus, je suis d'accord avec toi.
Il reste sur ses idées. Là, il a envoyé un message fort quand il a ressorti Giroud.
Oui, j'aimerais bien voir Dimitri Payet en équipe de France. Voilà,
c'était bon. Assume-le, voilà.
Mais quand même. dis-nous tout, mais Mickaël.
J'aime beaucoup Dimitri, le style de jeu.
Mickaël, il a associé Payet et Giroud en équipe de France.
Ah ben pourquoi pas.
Pourquoi pas.
À la place de Mbappé,
on écoute Fala. Allez, vas-y, Fala, on t'écoute.
Non, après, pour Olivier Giroud, de toute façon, le Milan AC, ils l'ont pris pour faire le Joker de Zlatan, on le sait tous. Maintenant, ce mec-là, Olivier Giroud, il a cette faculté. De toute façon, j'ai toujours dit, malgré que je peux le critiquer, j'ai toujours dit une chose sur lui, c'est que ce mec-là, il s'est peut-être mis un droit de réserve là où peut-être certains joueurs à l'époque, parce que sa carrière, on part de Istres, on remonte, on peut aller, tu sais, ça va loin à Tours, Montpellier. Le mec, s'il en arrivait là, j'ai toujours dit, si ce mec-là, j'ai pu le croiser sur les chemins quand je jouais à Orléans et lui, il était à Tours. Si ce mec-là, il en arrivait là, c'est pour une chose, c'est pour son mental. Et ça, je l'ai toujours dit. Ça, par contre, il a le mental, ce mec-là, pour relever. Quand il est au, on le descend, ce mec-là, il a cette faculté à se taire. Et à montrer. Maintenant, au Milan AC, je pense que là, parce que Zlatan, je crois, il jouait pas hier soir.
Non, il était, non.
Voilà, c'est ça. Il était blessé, je pense. Donc, c'est pour ça. Et ça lui va plutôt bien, en fait. C'est plutôt ce costume-là, en fait, de Joker doublure. Je pense que ça lui va mieux que de titulaire aujourd'hui, ce mec-là. Titulaire, tu peux pas.
Joker de luxe.
Ouais, voilà, c'est ça, en fait, exactement.
Ouais, voilà.
Le mec, on a bien vu, il est capable. Tu le fais rentrer 25 minutes, il peut te faire quelque chose, ou même là, il a joué le match, il a fait le taf.
Bien sûr.
Mais après, pour en venir à cette question de l'équipe de France ou pas, moi, je pense que déjà d'une, là,
terminé pour lui.
Bah, déjà, c'est un message très fort qu'il envoie déjà en le sortant, parce qu'il a bien vu ce qui s'est passé à l'Euro. Et je pense que Didier Deschamps, il a eu cette faculté de revoir, de repenser pour travailler la Coupe du Monde. Et il sait très bien que son échec, d'une, c'est de ne pas avoir incorporé Karim Benzema plus tôt dans les préparations de matchs amicaux d'avant l'Euro. On le sait tous, parce que je pense que s'il y aurait eu une combinaison un petit peu faite quelques mois en avant, là, les huitièmes ou les quarts de finale, on ne sort pas, en fait. On peut aller au demi, sauf qu'en demi, tu rencontreras deux grosses...
Aïe, avec Nice, sans Giroud. En tout cas, oui, on a bien compris, mais il a la particularité d'avoir marqué lors de chacun de ses trois premiers matchs, avec le Milan AC, à San Siro. Oui, avec Nice.
Bah après, l'avantage avec Giroud, on sait qu'il a le sens du but. C'est un instinct de buteur, ça, on sait très bien. Lui, tu le fais jouer, il peut marquer. Si tu joues pour lui, il peut marquer. Donc, on connaît les qualités et les défauts de Giroud. Il faut s'adapter à son jeu, à ce qu'il est. À ce niveau-là, il n'y a pas de souci. 35 ans, 34 ans, il fera le taf. Mais comme ça a été dit précédemment, il ne faut pas qu'il joue trop de matchs. Il ne peut pas enchaîner autant de matchs qu'avant parce qu'il a l'âge et je pense que ça joue pour lui. Et oui, il peut rentrer, il peut être le joker de luxe.
Longtemps qu'il n'a pas enchaîné de matchs.
Oui, c'est ça. Je pense qu'il n'a plus l'habitude, surtout aussi. Maintenant, c'est compliqué pour lui.
Physiquement, il est prêt. Je pense qu'il ne se blesse pas beaucoup, ce joueur-là.
Ouais, mais après, il ne joue pas beaucoup aussi depuis quelques années. Donc, c'est pour ça aussi. S'il ne joue pas, il ne va pas se blesser. Mais après, l'entraînement, ça arrive à certains, c'est déjà arrivé. Donc voilà, après, on sait que Giroud, c'est un travailleur, il a un mental incroyable. Pour faire ce qu'il a fait l'année dernière et les années précédentes à Chelsea, il jouait jamais. On faisait appel à lui quand il y avait 15 blessés ou 15 absents. Et le mec,
c'est
il joue et il
arrive
à marquer. Voilà, il arrive, il rentre et il marque. Donc c'est pour dire, le mec, il a du mental. Franchement, mentalement, il est très fort. Donc à ce niveau-là, c'est notable. Et au Milan, il aura du temps de jeu. On voit depuis le début de la saison, il a déjà marqué 4 buts. Mais il est présent. Il est la doublure de Zlatan ou Anterebic ou d'autres joueurs d'ailleurs. Donc oui, il sera là. Il va faire une bonne petite saison. Mais après, il ne faut pas croire qu'il va venir en équipe de France, quoi que ce soit. Jamais de la vie.
Jamais de la vie selon Vignesh. Oui, voilà, Mickaël.
Je pense que Deschamps a tourné la page, clairement. Mais. Moi, je suis désolé, mais un profil comme Giroud, ça a jamais dénoté en équipe de France. Il a toujours fait ses matchs, il a toujours marqué ses buts, 46 buts en sélection, si je dis pas de bêtises. Il a marqué avec Arsenal à l'époque, il a marqué plus de 100 buts en 250 matchs. Avec Chelsea, c'est 39 buts en 119 matchs. Avec le Milan, c'est 9 buts en 4 matchs.
Il répond présent, il dénote jamais.
Et moi, je suis un petit peu déçu de la façon dont ça se termine avec l'équipe de France. On gardera malheureusement aussi beaucoup cette image.
En France, on n'arrive pas à cette
dichotomie entre
le Paris Saint-Germain avec ses joueurs.
Cette dichotomie entre d'un côté Giroud, de l'autre côté Karim Benzema, ce qui est vraiment dommage parce que je pense que oui, s'entendent bien, c'est pour ça que je te dis ça. Justement, dans l'imaginaire collectif, je pense qu'il y en a beaucoup qui les opposeront, alors que c'était deux joueurs qui étaient en plus complémentaires et qui s'apprécient en plus.
Je suis d'accord.
Donc c'est aussi pour ça que je dis, c'est un petit peu dommage dans la manière dont ça se termine avec l'équipe de France.
Ouais, Mickaël.
Et voilà, moi, tout comme je l'ai dit depuis, comme je dis toujours, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est voilà, respect pour la carrière d'Olivier Giroud. Il
ouais,
a terminé peut-être une meilleure fin en équipe de France.
Pas faux. Champion du monde, on le rappelle.
Après ça, il a été champion du monde. Il a eu un bon match en équipe de France. Il a été présent. Il a marqué des buts.
C'est terminé.
Après, comme beaucoup d'histoires, ça se termine mal. Ça arrive, c'est la vie.
Après, ça se termine mal. Après, j'ai envie de dire, moi, je resterai sur mes positions. Je pense que c'est lui qui s'est tiré une balle tout seul dans le pied.
Ah ouais.
Parce que, je le redis encore une fois, t'es en compétition. Tu prends des déclarations. Est-ce que même le coach t'a demandé de faire des déclarations comme ça en presse? C'est les gars. Après, faut remettre le contexte. Ouais. En fait, les mecs, ils sont.
J'en ai déjà parlé.
En fait, ils sont enfermés deux mois. Ils sont susceptibles d'être enfermés pendant deux mois.
Ouais.
C'est-à-dire les mecs, ils sont dans une.
C'est comme ça. Voilà, on est formés en centre de formation.
C'est ça, exactement. C'est-à-dire ils sont formés. Il y a une compétition. Les mecs, ils sont tous dans un groupe. Ils vivent dans un groupe. Il y a une vie qui s'installe et tout. Donc de là, ça peut déstabiliser toute une machine en fait.
Ouais.
Et de là que t'envoies un pic dans ce sens-là, je pense que ça a été Et je pense que il parle pas.
Oui, il y a pas ça.
Deschamps, il peut lui faire un cadeau d'adieu.
Oui,
mais là, Deschamps, on lui remet toute la faute sur lui parce que après, il y a eu l'élimination, c'est tout ça. Et Deschamps, à mon avis, derrière, il se dit oh, lui déjà, j'ai déjà compliqué à gérer tout ça. Lui, il me rajoute une déclaration comme ça. Oh, ouais. Il me fait péter la bulle là. Je pense que déjà, en fait, c'est plus sur ça en fait qu'il punit. C'est pas sur le joueur, parce qu'il sait que le mec, il est efficace, qu'il a besoin de lui, il va répondre présent. Je pense que c'est juste... Moi, après, c'est mon point de vue. Je pense que c'est sur ça. Bah, t'as pas à parler.
Bon, on l'a vu précédemment, de toute façon, en équipe de France. Giroud, il jouait pas énormément. Il était toujours appelé en équipe de France. Et après, il répondait présent, il marquait, il jouait, il n'y avait pas de souci. Mais là, voilà, c'était l'occasion, comme il y a le petit souci avec Mbappé, la déclaration. Et du coup, Deschamps, il a profité de ça pour l'écarter. Simplement, c'est tout, en fait. Et en plus, là, Benzema, il est en forme. Donc, voilà, il faut laisser la place à Benzema, qui s'éclate, qui est bon aussi en équipe de France. Hein. Le retour, il était très, très bien pour Benzema. Ouais. Donc, ça marche aussi pour Deschamps, c'est en sa faveur. Donc, là, du Giroud qui vient pas, qui n'est pas sélectionné, bah, tant pis.
En fait, moi je comprends pas. Il accepte d'être doublure au Milan AC, mais il voudrait pas être la doublure en.
Mais il a jamais dit en France. Mais il a jamais dit alors, ça, en vrai.
Bah, c'est ça, en fait, en gros. Mais bah, c'est ça, en gros.
Ouais,
bah, parce que c'est quoi le problème alors. C'est que Benzema, il revient et lui, il est sur le banc. Voilà, fin. Bah, il accepterait d'être sur le banc s'il y aurait Griezmann, Mbappé, il se dit bon, vas-y.
Il a ce sentiment de se dire.
Mais là, en fait, je peux me mettre un petit peu à sa
à
place.
À la place de Giroud.
Ouais, de Giroud. Le mec, à part Benzema et Griezmann, je vois pas c'est qui. Et Dembélé, je vois pas qui pourrait.
Mbappé, tu veux dire.
Ouais, mais c'est ça qui pourrait lui mettre des menaces, en fait. Genre des menaces qui pourraient lui prendre sa place. Dans, tu vois, hiérarchiquement, bon, les mecs, ils sont au-dessus. C'est des extraterrestres. Mais là, quand il voit que Benzema il arrive, il a compris tout de suite.
Ouais.
C'est fini.
Ah, c'est fini.
Là, je vais m'asseoir sur le banc. Là, c'est fini. Là, je vais cirer. Moi, je sais. J'ai été joueur, je sais. On m'a mis des piques comme ça et je prenais comme ça.
Surtout Fala. Surtout qu'en plus, le retour de Karim Benzema, ça tombe un petit peu de nulle part. Personne s'y attendait. Je pense que les joueurs, ils s'y attendaient peut-être un peu.
C'est encore une mauvaise com de. Ça, par contre, de l'équipe de France.
Après, la fédération.
Je pense que Giroud, voilà, et comme tu dis, il n'était pas trop inquiété, il avait sa place. Je pense qu'il a aussi le sentiment du travail accompli depuis plusieurs années en équipe de France. Et là, il voit Karim Benzema lui damer un petit peu le pion. Donc, je pense que d'un côté, il a un peu mal digéré. Et c'est aussi compréhensible. Après, comme tu l'as dit, c'est vraiment la réaction. La mauvaise réaction qu'il a eue, c'est cette
déclaration.
Qui fragilise sa situation en équipe de France. Mais je pense que tout ça participe, oui, d'une certaine frustration, pas forcément par rapport à Benzema en lui-même, mais par rapport à un joueur qui arrive et qui va lui prendre sa place dans la hiérarchie, dans le 11.
Mais je sais pas comment Olivier Giroud, c'est lui, de toute façon, c'est lui le joueur, c'est lui le professionnel, tout ça, tac. Mais je pense, au vu des performances que Benzema a pu envoyer on va dire les 4 Ligues des Champions qu'ils ont pris d'un coup.
Avec le Real Madrid.
Voilà, avec le Real. Il y a un moment, Olivier Giroud, il devait se dire, mais lui, s'il continue comme ça, c'est mort, il va revenir. Il va revenir, c'est pas possible. On peut pas. Et la preuve, une fois de
plus,
il est revenu. Pourquoi? Parce qu'il y a un moment, on voulait pas le prendre. Oui, mais les performances qu'il mettait au Real de Madrid, tu pouvais pas laisser un joueur comme ça ne pas les mettre à contribution de l'équipe de France. C'est pas possible. Alors après, est-ce que au-dessus, ça a appelé Didier Deschamps et t'arrêtes ton cinéma, tu reprends Karim parce que là, il faut ce joueur. T'arrêtes ton cinéma. Peut-être. Ça, c'est vrai. Peut-être. Oui. Comme ça a été fait quand il a été éjecté. Peut-être aussi, il y a eu un coup de fil, on ne sait pas. Mais une fois de plus, Donc Olivier Giroud, c'est vrai, moi je peux là-dessus, par contre, je l'ai toujours dit, je peux comprendre que il s'est senti menacé ou il s'est senti un peu, comme on dit dans mon jargon, un peu patate. C'est-à-dire que personne n'a été prévenu, c'est vrai, du retour de Benzema. Ils l'ont tous appris quand il a fait sa liste. Mais je pense qu'en vrai, tout le monde savait. Ouais. Je pense qu'en vrai, tout le monde savait que Benzema allait revenir.
Même les joueurs. C'est pas comme ça pour.
Ouais, directement.
Pour l'euro.
En tout cas, pour l'euro, bah, c'était.
Parce que déjà, parce qu'en plus, l'euro a été décalé, etc.
Le timing, globalement,
il est quand même particulier autour de Karim Benzema.
De ouf, il a raison.
Ouais, c'est vrai.
Parce qu'en vrai, ça joue pour Benzema, mais ça joue contre Giroud, en fait. Ouais. Et le fait que c'est vrai ce que tu dis, que l'euro a été décalé d'un an.
Bah oui.
Ça se trouve, il aurait été en 2020. Benzema, il aurait pas, il aurait pas été pris. Et c'est ça, tu vois. En fait, c'est vrai que sur ça, là, je te rejoins. C'est vrai que ça a été.
Bah, ça tombait à pic aussi pour Deschamps parce que Giroud, il jouait.
Alors,
des heureux, plus. Des malheureux.
Ouais, c'est ça. Parce qu'il jouait même plus à Chelsea ou quelque
chose. Oh, mais ça l'a jamais dérangé.
Ouais, mais là c'est à la saison. Pas... Ouais, mais là, dans la saison, c'était flagrant. Parce qu'il jouait
après, est-ce que c'est
Benzema,
pas
le... il était au haut niveau, il était incroyable. Donc là, c'était l'occasion ou jamais.
Je veux dire, ça l'a jamais empêché de prendre Kurt Zouma à l'époque quand il jouait à Chelsea.
Oui, mais sur la même chose.
Il a toujours pris des mecs, ses soldats.
Ouais, mais après, le problème, est-ce que c'est pas Giroud? Il s'est pas senti, est-ce qu'il s'est pas senti, intouchable?
Bah, ça se comprend.
Mais si, je comprends.
Mais justement, je pense que c'est ça. Je pense que la faute, elle est encore là pour lui.
46 buts en sélection.
On termine sur Olivier Giroud.
C'est un mec qui a planté, qui a pas arrêté de planter, qui était
partout,
plus proche d'un record.
Partout,
en gros, ce que je veux dire.
Faut pas oublier aussi qu'il avait, je pense, ce record de buts en
sélection.
Bah,
il l'a dit.
Mine de rien, il était à
l'aise. Non, ouais, mais moi, ce record, moi, je supporte aucune.
En tout cas, on a des réactions.
Non, il est. En fait, il est. Son record qui peut peut-être. Où il va peut-être l'atteindre ou pas.
Bah non, Giroud.
Mais pour moi, je trouve qu'il est un peu faussé. Je pourrais te dire, il y a au moins 20 buts, on peut les retirer déjà.
Bien sûr. Merci, Fala, avec Neige.
Aucune raison.
Et Michael, concernant Olivier Giroud, eh ben, on a Raphaël avec Vera qui nous écoute ce soir, des auditrices, des auditeurs. Eh ben, nous, on adore les deux. Voilà, Olivier Giroud et aussi Karim Benzema. Aussi, la dernière rubrique de cette émission.
Time Sport, le mode pressing.
Eh oui, mode pressing. Fala, on apercevra peut-être Fala au Stade de France. Eh oui, à mi-jour de Paris 2024. Eh oui, Fala. Ah, Fala. Il courait, tout comme Michael.
J'espère, justement. Mi-jour. On parle des JO, justement. C'est
un siècle après. 1924.
J'espère que j'ai 2024. Un ami à moi qui s'appelle Toudmani Koulibaly, champion de France. Bah oui, mais j'espère qu'il va pouvoir se qualifier pour ces JO 2024.
Bien sûr, il aura le temps.
Et j'espère entraîner, de se qualifier. C'est un grand espoir. Bon, après, il a eu la vie basculée. Bref, mais c'est un grand espoir de l'athlétisme français. Je vous tenais à vous le dire. Retenez bien Toumani Koulibaly.
On l'invitera. C'est promis.
Ouais,
voilà. On l'invitera sur l'antenne de Beur FM.
Je vais en parler. Il n'y a pas de souci. Et c'est un grand espoir du 400 mètres.
Et cet espoir. Voilà. Eh ben justement, après, un siècle après, ouais. Paris de 1924 et Paris 2024, Viknesh, ça fait, eh ben, ça fait du bien,
fait
en tout cas.
Ça fait plaisir, plaisir de oui. Les Jeux Olympiques.
On sera prêts, en tout cas, nous.
Bah, on sera prêts, on sera là. Et après, c'est bon signe parce que, mine de rien, à Tokyo, l'équipe de France a été performante. Ouais. Ils ont eu pas mal de médailles.
Il faut plus de médailles encore.
C'est ça. Bah, il faut, heureusement.
Bah, chez nous, il en faudra plus.
Il en faudra plus.
Que de l'or.
Surtout au niveau des titres. C'est ce que j'allais dire. Surtout au niveau des titres parce qu'on a énormément de médailles, mais on n'a pas beaucoup d'or, mine de rien. Donc, ça, c'est un peu regrettable et j'espère que ça sera pas le cas à Paris. Il faudra plus d'heures, il faudra travailler pour ça. Et même au niveau des Paralympiques, c'est bien aussi. Donc là, oui, à Paris, ça sera bien. Mais oui, moi, je me dis peut-être que c'est peut-être un peu trop tard. Parce que là, on est qu'à 3 ans. Il faut prendre en compte que Londres, ils ont eu les Jeux en 2012, même Tokyo. Eux, ils ont commencé à travailler pour les JO pratiquement 10 ans avant. Là, on est à 3 ans. Donc, faut pas espérer des miracles ou 15 médailles d'or ou 20 médailles d'or ou 100 médailles. Ou même, comme ça a été dit précédemment par Claude Onesta il y a longtemps, lui, il avait dit il voulait 80 médailles. Mais jamais de la vie, on les aura les 80 médailles. Ouais. Mais jamais. Donc, ça, c'est impossible.
Non, mais après, le problème,
faut être raisonnable.
C'est parce qu'il y a
des, on est raisonnable, mais il en faut.
Non, mais après, je suis d'accord. Allez. Mais après, le problème, c'est qu'il y a des nations comme les Chinois.
Beaucoup plus d'athlètes.
Mais c'est ça.
La Russie, les Américains.
En fait, on pourrait se lancer tous.
Mais non.
Écoute, si toutes les délégations on mettrait, je sais pas, moi je te dis 30 participants.
Ouais, un quota quoi.
Tu verrais que l'équipe de France rentrerait dans le quota.
Peut-être.
Parce que, sinon ils ont, je sais pas combien d'athlètes.
Mais non, parce que regarde, c'est simple. Parce que par exemple, si je prends l'exemple de l'Angleterre, eux, ils ont mis énormément de cyclistes sur la piste et sur route.
Non, t'as pas compris.
Ils gagnent tout là-bas. La Chine, ils mettent tout le monde en ping-pong, tennis de table, ils gagnent tout là-bas.
Non, mais c'est la réalité. T'as pas compris.
Ouais, il n'y a pas que le ping-pong.
Ce que je veux dire, en fait, en gros, Vignesh, c'est que tu prends les Chinois. Athlétisme, bon, à part l'athlétisme, mais ils sont quasiment dans toutes les disciplines.
C'est ça.
Ils sont quasiment dans. Ça veut dire que tu regardes le compteur, les trois premiers, c'est qui? Chinois, Russes et Américains. Voilà, les Américains, voilà. Mais ils sont dans toutes les disciplines. Mais ils sont, je ne sais pas combien en délégation. Nous, en France, je ne sais pas, je dis une connerie, peut-être 50. C'est plus, mais je pense que.
Non, tu vois, Mourad est d'accord avec toi. Mourad, l'auditeur, est d'accord avec Fala. Oui, Mickaël, on termine avec toi concernant les JO 2024.
Je pense que Fala. Voilà, raison. Et après, plus globalement, 2024, on a hâte que ça commence. On a hâte aussi de débriefer ça sur Beurre FM.
Exact.
On sera là. Et comme tu l'as dit, J-1000, c'est à la fois loin et à la fois proche.
Ça arrive très vite.
Donc,
c'est
voilà.
Bientôt.
Deux ans.
On espère que ça va aller vite.
Ça va aller vite. Toi aussi, on va te retrouver dans les travées ou sur la piste.
Par contre,
il n'y a pas de problème.
Par contre,
oui, voilà.
Pour ces JO qui vont arriver en France à Paris en 2024.
Dis-nous tout.
Par contre, moi, je ne vais pas aller à la natation dans la Seine. Ils veulent nettoyer la Seine. Et puis déjà, j'aimerais bien voir comment ils vont la nettoyer, cette Seine. À mon avis, quand ils vont commencer à nettoyer, les jeux, ils vont couler. Ils vont arrêter. Non, bon, là, c'est plus possible.
Réalisateurs qui sont déjà dessus.
Ah, lui, il a déjà été se baigner.
Ah ouais,
il a déjà été se baigner dans la Seine.
Il connaît très bien.
Il
connaît très bien les week-ends de la Seine. Merci, Fala. Merci,
Vignesh. Merci, c'est
aussi, Mickaël, de m'avoir accompagné, ainsi qu'à la réalisation avec Yanis et Giovanni. On se donne rendez-vous dès demain sur l'antenne de Beurre FM à partir de 20h. La suite des programmes.
Retrouvez Timesport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.